When you get Xfinity Internet, Flex is included for you. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch.
Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply.
Livre Audio est un podcast indépendant qui vous propose chaque semaine un minimum de deux récits, romans, nouvelles, contes ou histoires courtes, pour vous évader, redécouvrir de grands classiques ou de nouveaux auteurs. Si vous aimez ce podcast, merci de le soutenir en vous y abonnant, en le notant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Arthur Conan Doyle. Une heure bien remplie. Entre Hillsbourne et Tunbridge, à proximité de la croix en main, la route coupe de vastes landes solitaires. Une auto la descendait lentement un soir des derniers jours de cet été, vers 11h30. La longue et mince voiture roulait avec une moelleuse douceur dans un gentil ronron. Sous les feux coniques de ses phares, les bordures de gazon et les bouquets de bruyère défilaient comme des bandes dorées d'un cinématographe, laissant, alentour et après, les ténèbres plus épaisses. Seule, une tache de rubis courait à l'arrière sur la route. Jusque dans l'obscurité de cette nuit sans lune, on n'eût pu faire autrement que de remarquer la singulière imprécision de ses lignes. Et cette anomalie se fut expliquée dans l'instant où la voiture, passant devant la porte ouverte d'un cottage, en reçut un coup de lumière. Toute sa carrosserie était, en effet, drapée dans une toile grise flottante, une sorte de housse enveloppait son capot. Elle avait pour conducteur et pour occupant unique un homme de stature élevée, de large carrure. Plié en deux sur le volant, il portait rabattu au ras des yeux son feutre tyrolien, et dans l'ombre de son couvre-chef rougeoyait la lueur d'une cigarette. La tête en avant, les épaules arrondies, il semblait, tandis que l'auto glissait à moteur débrayé sur la pente de la route, chercher du regard, dans l'ombre, quelque chose d'impatiemment attendu. Une trompe d'auto mugit très loin vers le sud. En pareil lieu, un soir de dimanche, le courant de la circulation devait se porter tout entier du sud au nord, car c'est le moment où les Londoniens partis pour passer le week-end sur une plage s'en reviennent de la mer à la capitale, du plaisir au devoir. L'homme se redressa, écouta. Les mugissements de la trompe se renouvelèrent. Oui, c'était bien ça qu'il attendait. Le menton sur le volant, il essayait de percer des yeux la nuit noire. Soudain, il cracha sa cigarette et aspira l'air avec force. Deux petits cercles lumineux venaient de poindre à un coude encore lointain de la route. Ils s'évanouirent dans un creux, reparurent à une montée et redisparurent. Inerte jusque-là, le conducteur de l'auto drapée s'éveilla tout d'un coup à une vie intense. Il tira de sa poche un loup d'étoffe sombre qu'il ajusta soigneusement à son visage de façon à n'en pas avoir la vue gênée. Puis il démasqua, l'espace de quelques secondes, une lanterne portative à acétylène, inspecta d'un coup d'œil le camouflage de la voiture, posa près de lui sur le siège un pistolet, rabaissa un peu plus son chapeau, embraya, pressa la pédale d'accélération. Un tressaillement secoua la voiture, elle rendit un cri étouffé, auquel succéda le halètement doux et puissant de la machine, bondit, et de toute sa vitesse se mit à dévaler la pente. Enfin, il éteignit ses phares. Devant lui, la route n'était plus qu'un ruban gris à peine distinct entre les bruyères. L'auto, qui venait à sa rencontre, ne tarda pas de se faire réentendre. Elle était certainement d'un modèle ancien, car engagée dans une montée à la troisième vitesse, elle soufflait, toussait, bafouillait, geignait, et son moteur rendait les battements d'un cœur malade. Ses feux plongèrent une dernière fois, comme à une courbe de montagne russe. Quand ils reparurent, les deux voitures n'étaient plus qu'à 30 pas l'une de l'autre. Mais la première, immobile en travers de la route, défendait le passage. Une lanterne s'agitait dans l'air en guise de signal. La deuxième bloqua ses freins et stoppa. « Ma parole, vous pouviez causer un accident !» cria une voix irritée. « Quelle idée vous a pris d'éteindre vos phares ? Je ne vous ai vu qu'au moment où j'avais mon radiateur sur vous. » La lampe à acétylène en avançant illumina le visage d'un jeune homme aux yeux clairs, à la moustache blonde, assis tout seul au volant d'une antique voiture et dont le teint n'était pas moins animé par la bonne santé que par la colère. Brusquement, l'expression de cette colère se changea en celle d'une complète stupeur. Le conducteur de la Torpedo avait sauté de son siège. Un pistolet de mauvaise mine braquait son canon allongé dans la figure même du jeune homme. Derrière le cran de mire, il y avait un rond d'étoffe noire percé de deux fentes. Et par ces deux fentes, deux yeux meurtriers le considéraient. « Haut les mains !» jeta une voix impérative. Le jeune homme était aussi brave que personne, il ne s'empressa pas moins de lever les mains. « Descendez !» reprit l'agresseur. Il mit pied à terre, escorté de près par le pistolet et la lanterne. Comme après cela il pensait pouvoir retomber les mains, une nouvelle injonction, aussi brève que la première, les lui fit relever bien vite. « Savez-vous, dit-il, que tout ça m'a l'air assez vieux jeu ? Vous plaisantez, je suppose. »« Donnez-moi votre montre, » répliqua l'homme derrière le pistolet. « Voyons, ce n'est pas sérieux. Votre montre, vous dis-je. Prenez-la donc, s'il vous la faut. D'ailleurs, elle n'est qu'en doublé, je vous en avertis. Mais vous retardez de 200 ans, ou vous vous trompez de longitude. Vous devez vous croire en Australie, si ce n'est en Amérique. » « Vous ne semblez pas à votre place sur une route du Sussex. »« Donnez-moi votre bourse, » répartit l'homme masqué. Il avait, dans les manières et dans la voix, une autorité irrésistible. Le jeune homme lui remit sa bourse. « Pas de bague ? Je n'en porte jamais. » L'homme masqué passa devant sa victime, ouvrit le capot de la voiture et commença à tripoter à l'intérieur avec des tenailles. On entendit se rompre un fil métallique. « Eh bien, s'il vous plaît, n'abîmez pas ma voiture !» cria le jeune homme. Il s'était retourné, mais rapide comme l'éclair, le pistolet le menaçait en pleine figure. D'ailleurs, si peu de temps qu'eut mis le voleur à se redresser après avoir coupé le fil de la magnéto, il n'en avait pas fallu davantage pour que le jeune homme fit une remarque dont il tressaillit d'abord et dont ensuite il demeura interloqué. Il fut sur le point d'articuler quelques mots au prix d'un effort évident. Il se retint. « Remontez, » lui dit le voleur. Il reprit sa place sur le siège. « Votre nom ?»« Ronald Barker. » « Et le vôtre ?» L'homme masqué ne daigna pas relever cette impertinence. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « Mes cartes sont dans ma bourse, prenez-en une. » Le voleur sauta dans son auto, dont le ronron avait fait à cet entretien un accompagnement en sourdine. Il ramena son frein d'un coup sec, embraya, tourna le volant et dégagea la voiture. Une minute plus tard, il roulait doucement, tous ses feux allumés, à 1/2 mile vers le sud, tandis que M. Ronald Barker, un de ses phares à la main, fourgonnait furieusement dans sa boîte à outils en quête d'un fil de cuivre qui lui permit de rétablir son circuit et de reprendre sa route. Quand il jugea qu'entre sa victime et lui la distance était suffisante, le voleur ralentit peu à peu, tira son butin de sa poche, y remit la montre, ouvrit la bourse, compta ce qu'elle renfermait. Le total s'en élevait à 7 shillings. Ce gain modique ne parut pas précisément l'ennuyer, car il eut un accès de rire en exposant les 2 demi-couronnes et le florin à la clarté de sa lanterne. Mais subitement, il changea d'air et de façon. il refourra la bourse dans sa poche, appuya sur l'accélérateur, et repartit en avant d'un trait, le cou tendu, le regard fixe, comme au début de l'aventure. Devant lui, grossissaient rapidement sur la route les lumières d'une nouvelle auto. Cette fois, tout annonçait une riche proie. Quatre grands phares encadrés de cuivre étincelant attestaient de la magnificence d'une belle voiture, dont le ronflement grave, égal, proclamait d'autre part la puissance. Elle filait, de toute sa vitesse, pareille à un galion d'Espagne, haute de poupe et chargée de trésors. À peine avait-elle fait halte devant la Rolls-Royce qui lui présentait le travers, la portière de la voiture s'ouvrit, le voleur en vit sortir une tête mauvaise, congestionnée par la fureur. Il aperçut de grosses joues ballottantes, de petits yeux finaux qui brillaient entre des plis de graisse. « Hors de mon chemin, monsieur, hors de mon chemin, et plus vite que ça. Passez-lui dessus, ou plutôt, descendez, enlevez-le de son siège. Il est saoul. Je vous dis que ce type est saoul. » On peut admettre que le voleur avait jusque-là gardé dans ses procédés une modération relative. Cette fois, un véritable accès de rage s'empara de lui. Excité par la voix qui venait de la limousine, le chauffeur, grand gaillard vigoureux, s'était élancé à terre et l'avait prise à la gorge. D'un coup de crosse, il l'entendit gémissant à ses pieds, l'enjamba, ouvrit toute grande la portière, attrapa férocement par l'oreille le gros personnage qui occupait la limousine et l'entraîna tout soufflant sur la chaussée où, délibérément, il le gifla deux fois. Les deux gifles retentirent comme une double détonation dans le silence nocturne. Le gros personnage blêmit et tomba demi-évanoui contre le flanc de la limousine. Le voleur lui défit le veston, lui arracha la montre, sans accepter la chaîne qui était en or massif et surchargée de breloques, cueillit l'épingle de diamant piqué dans le satin noir de la cravate, ôta des doigts quatre bagues, dont la moindre valait plusieurs centaines de livres, enfin retira d'une poche intérieure un volumineux portefeuille de cuir. À mesure qu'il s'appropriait les objets, il les engloutissait dans les profondeurs de son ulster. Il y ajouta les quatre perles qui retenaient les manchettes et même le bouton d'or qui fermait le col. Puis s'étant assuré qu'il n'avait plus rien à prendre, il dirigea la lueur de sa lanterne sur le chauffeur toujours étendu, ce qui lui donna le plaisir de constater que l'homme était simplement étourdi de sa chute et non point mort. Alors, il revint au maître de la voiture. Avec une énergie systématique autant que féroce, il se mit à le dépouiller de ses vêtements. Le malheureux, pleurnichant et se tortillant, n'attendait plus que le coup de grâce. Quel que fût le dessein du voleur, il n'eut pas le loisir d'en pousser jusqu'au bout de l'exécution. Un bruit l'ayant fait se retourner, il aperçut à courte distance les lumières d'une auto qui filait grand train, venant du nord. Elle avait dû constater au passage les méfaits dont il était l'auteur. Il pensa qu'on le recherchait. Déjà, il croyait voir toutes les autorités du district lancer à ses trousses. Il n'avait pas de temps à perdre. Plantant là sa victime toute souillée de poussière, il sauta sur son siège, embraya et prit la descente en quatrième vitesse. Au bas de la côte se trouvait un petit chemin très resserré. Il s'y engagea sans hésitation, à une allure qui faisait crier la Rolls-Royce. Quand il s'arrêta, il avait mis 5 bons miles entre lui et ses poursuivants problématiques. Installé dans un coin tranquille, il passa en revue ses gains de la soirée. 5 billets de 50 livres, 4 de 10, 50 sous-vrains et quelques papiers de valeur. C'était un coup de filet très honnête, au surplus très suffisant pour une soirée de travail. Il remit le tout dans sa poche, alluma une cigarette et se remit en route, de l'air d'un homme affranchi de tout souci. Dans la matinée du lundi qui suivit ce dimanche mouvementé, Sir Henry, ayant achevé sans hâte son petit déjeuner, passa dans son cabinet de travail pour y écrire quelques lettres, avant de se rendre au tribunal du comté où il siégeait comme délégué. Magistrat, ayant 10 ans de carrière, Sir Henry était surtout réputé comme un excellent éleveur de chevaux et le plus intrépide cavalier de tout le comté. Grand, élancé, rasé de près, le visage énergique, d'épais sourcils noirs, une mâchoire résolue, il était de ces hommes qu'on aime mieux avoir pour amis que pour ennemis. Bien que frisant la quarantaine, on ne se fût point avisé qu'il eût passé la première jeunesse si la nature capricieuse n'avait pas planté au-dessus de son oreille droite une mince touffe de poils blancs qui accusait, par le contraste, le noir de ses cheveux abondants et bouclés. Il semblait préoccupé ce matin-là, car sa pipe allumée s'étant assis à son bureau devant son papier blanc, il demeura plongé dans une rêverie profonde. Mais il fut soudain ramené à lui. Derrière, les lauriers bordant la courbe de l'avenue, un bruit sourd se faisait entendre qui, s'enflant et se précisant, devint le fracas reconnaissable d'une auto d'ancien modèle. Et bientôt apparaissait une voiture ancienne que pilotait un jeune homme au teint rose à la moustache blonde. À cette vue, Sir Henry se dressa comme en sursaut, puis il se rassit pour se relever un instant plus tard quand le valet de pied annonça M. Ronald Barker. L'amitié qui liait les deux hommes suffisait à justifier cette visite matinale. Chasseur endurci, cavalier consommé, fanatique du billard l'un et l'autre, la communauté des goûts avait créé entre eux une association étroite, et le plus jeune, qui était le plus pauvre, avait l'habitude de passer 2 soirs au moins chaque semaine avec Sir Henry. Sir Henry l'accueillit la main tendue. « Vous vous êtes levé tôt ce matin, lui dit-il. Quel vent vous amène ?» Mais le jeune homme avait une contenance embarrassée. Sa physionomie était maussade. Il eut l'air de ne pas voir la main qui s'offrait à lui. Debout, tirant sa longue moustache, il regardait le magistrat d'un œil où la curiosité se mêlait d'inquiétude. « Est-ce que je me trompe ? Vous paraissez tout ému. » lui dit Sir Henry. Il ne répondit pas. Évidemment, il était venu provoquer un entretien qu'il ne savait comment engager. Sir Henry se sentit perdre patience. « Qu'est-ce qui a bien pu vous faire sortir de votre assiette ? À qui ou à quoi en avez-vous ? » « À quelqu'un, » dit enfin Ronald Barker avec force. « Et ce quelqu'un, c'est vous. » Un sourire s'ébaucha sur les lèvres de Sir Henry. « Mon cher garçon, asseyez-vous, et si vous avez un grief contre moi, parlez, je vous écoute. » Barker s'assit, il sembla prendre son courage à deux mains avant de lâcher ce qu'il avait à dire. Enfin, la question qu'il retenait lui échappa comme une balle. « Pourquoi m'avez-vous détroussé la nuit dernière ?» Sir Henry avait des nerfs d'acier. Il ne marqua point de surprise ni d'irritation. Aucun muscle de son visage ne tressaillit. « Que signifie ce langage ?» Un individu de haute taille, carré des épaules, et qui conduisait une auto m'a arrêté cette nuit sur la route de Mayfield, après m'avoir mis son pistolet sous le nez. Il m'a soulagé de ma bourse et de ma montre. « Sir Henry, cet homme, c'était vous. » Le magistrat sourit de nouveau et regarda calmement son interlocuteur. « Suis-je dans ce pays le seul homme de haute taille et carré des épaules, le seul qui possède une auto ? Croyez-vous que je ne sache à première vue identifier une voiture, moi qui passe une moitié de ma vie sur une auto et l'autre moitié dessous, et qui donc, en dehors de vous, dans ce pays, possède une Rolls-Royce ? Mon cher Barker, ne pensez-vous pas qu'un voleur comme le vôtre se serait gardé d'opérer dans son propre pays ? Et par combien de centaines compte-t-on les Rolls-Royce dans le sud de l'Angleterre ? Non, dites ce que vous voudrez, vous ne me convaincrez pas, Sir Henry. Malgré l'application que vous mettiez à déguiser votre voix, comment m'y serais-je laissé prendre ? Je me demande à quoi peut rimer une chose pareille. Vous vous attaquez à moi, votre ami le plus intime, à moi qui, lors de votre élection, m'étais mis en quatre. Cela, pour une montre de pacotille et quelques misérables shillings, c'est incroyable. Simplement incroyable, répéta le magistrat avec un sourire. Et ces pauvres actrices, qui n'ont que ce qu'elles gagnent. Je vous ai suivi sur la route, vous savez, sale plaisanterie si jamais il y en eut une. Quant à ce requin de la cité, votre troisième victime passe encore, c'est du gibier pour voleur. Mais votre ami, ces jeunes femmes, jamais je n'aurais cru ça de vous. Alors, pourquoi le croire? Parce que c'est le cas. Vous le figurez, vous le persuadez à vous-même. Peut-être seriez-vous empêché d'en faire la preuve? Devant une cour de justice, je témoignerai contre vous sous la foi du serment. Ce qui m'a éclairé, c'est qu'au moment où, avec un détestable sans-gêne, vous coupiez le fil de ma magnéto, j'ai vu votre touffe de cheveux blancs dépasser votre masque. Un observateur attentif eut sans doute remarqué pour la première fois une légère altération sur les traits du magistrat. « Voilà bien de l'imagination, » dit-il. Barker rougit de colère. « Tenez, Sir Henry, » fit-il en ouvrant sa main pour montrer un petit lambeau triangulaire d'étoffe noire. « Voyez-vous ça? Je l'ai ramassé par terre près de l'auto des jeunes femmes. Vous aviez dû vous accrocher en remontant précipitamment sur votre siège. Faites donc chercher le gros pardessus noir que vous portiez. Si vous ne sonnez pas, je sonne moi-même, car je vous en préviens, je suis décidé à comprendre. » Pour toute réponse, le magistrat se leva, passa devant Barker, alla donner un tour de clé à la porte, mit la clé dans sa poche, puis « Vous voulez comprendre ? Soit. En attendant, je vous enferme. Il faut que nous causions en toute franchise d'homme à homme. Il dépend de vous que ceci finisse ou non par un drame. » Barker fronça les sourcils. « Vous n'améliorez pas votre cas par des menaces, Sir Henry. Je ferai mon devoir, vous ne m'intimiderez point. Quand je parle de drame, vous n'êtes nullement en question. Ce qui est en question, c'est le tour que va prendre cette affaire. J'ai beau n'avoir plus de parents, j'estime qu'il y a des choses que ne saurait permettre l'honneur de la famille. Sentiment tardif, il me semble. Peut-être, mais pas trop tardif. Et maintenant, j'en conviens, vous avez raison, c'est moi qui, la nuit dernière, vous ai arrêté sur la route de Mayfield. Sapristi, et pourquoi cela? Vous souffrirez, n'est-ce pas, que je m'explique comme je l'entends. D'abord, regardez ceci. Ayant ouvert, tout en parlant, un tiroir de son bureau, le magistrat en sortit deux petits paquets. Ces paquets devaient être ce soir expédiés à Londres. L'un vous est adressé, aussi je peux vous le remettre tout de suite, il contient votre montre et votre bourse. Vous vous tirerez donc de l'aventure sans autre dommage qu'un fil de magnéto coupé. Vous voilà convaincu, j'espère, que je n'avais pas attendu vos accusations pour réparer mes torts envers vous comme envers ces dames. Et puis, dit Barker, et puis reste le cas de Sir George Wilde. Vous n'ignorez sans doute pas que Sir George Wilde est avec son associé Guggendorf le fondateur de la Ludgate Bank, d'infâme mémoire. Ne parlons pas du chauffeur. Je vous donne ma parole qu'en ce qui concerne le chauffeur, j'avais mon plan. C'est le maître seul qui nous intéresse. Vous savez, tout le comté le sait, que je ne suis pas riche. Quand Black Tulip perdit le derby, ce fut pour moi un coup dur. J'eus ensuite d'autres déboires. Et là-dessus, il me revint un héritage d'un millier de livres. Cette satanée banque payait 7% d'intérêt. Je connaissais Wilde, je fus le consulter. Je lui demandai si l'affaire était sûre. Il me dit que oui. J'engageai chez lui mes 1000 livres. 48 heures plus tard, la banque sombrait. Il fut prouvé que Wilde connaissait depuis 3 mois l'impossibilité où l'on était de la maintenir à flot. La barque faisait haut, il n'en avait pas moins pris ma fortune à son bord. Il était par ailleurs fort riche. L'accident ne le gênait pas. Moi, j'avais perdu tout mon argent et la loi ne m'offrait point de recours. Cependant, j'étais volé autant qu'on peut l'être. J'allais trouver mon filou, il se moqua de moi. « Cela vous apprendra, me dit-il, à n'avoir confiance que dans le consolidé. La leçon à ce prix n'est pas trop chère. » Je me jurai que d'une façon ou d'une autre, j'aurai ma revanche. Je m'informai de ses habitudes. Je sus que tous les dimanches, il revenait d'Eastbourne avec une très grosse somme dans son portefeuille. Son portefeuille, aujourd'hui, je le tiens. Me direz-vous qu'en bonne morale, je n'avais pas le droit d'agir comme je l'ai fait? Pardieu, si j'en avais eu le temps, je l'aurais laissé sur la route aussi nu qu'il a lui-même laissé nu tant de veuves et d'orphelins. Cela est fort bien, mais moi, mais les jeunes dames. Ayez donc un peu de bon sens, Barker. N'attaquer qu'un ennemi personnel, n'était-ce pas me désigner bénévolement à la justice? J'étais tenu de me transformer en un malfaiteur vulgaire, tombé par accident sur un financier. C'est ainsi qu'à mes risques et périls, j'allais opérer sur la grande route. Le diable voulut que le premier passant que je rencontrais, ce fût vous. Je fus un imbécile de ne pas reconnaître votre taco au bruit de ferraille qu'il faisait en montant la côte. Je faillis devant vous, rester sans voix tant j'avais envie de rire. Enfin, mon homme arriva. Avec lui, par exemple, je ne plaisantais plus. Je m'étais promis de le dépouiller jusqu'à la peau. J'étais dehors pour ça. Je me suis à peu près tenu parole. Le jeune homme se leva lentement. Un large sourire s'épanouit sur ses lèvres. Serrant la main du magistrat, il dit « N'y revenez pas, c'est trop risqué. Cette canaille de Wilde triompherait si l'on venait à vous prendre. » « Vous êtes un brave garçon, Barker, » répondit le magistrat. « Non, je n'y reviendrai pas. Qui a donc parlé d'une heure magnifique et bien remplie ?»« By George, j'ai eu la mienne. » »« Mais c'est trop séduisant. Je me garderai de recommencer. J'aurai trop peur d'y prendre goût. » Le timbre du téléphone se fit entendre. Le magistrat porta le récepteur à son oreille, écouta et se mit à rire. « Je suis en retard ce matin, » dit-il. « On m'attend au tribunal pour juger quelques menus larcins. »
Keep yourself and others safe from COVID-19 by getting a COVID test as soon as you notice any symptoms. Keeping hands clean, wearing a face covering, and keeping your distance.
There's better days to come. We can do this. For us all. From the HSE.
When you get Xfinity Internet, Flex is included for you. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch.
Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply.
You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more.
Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.